Intervention de François Santoni, doctorant en histoire ancienne à l'Université de Corse, qui soutiendra en octobre prochain une thèse relative à la réception d'Alexandre le Grand dans la Rome républicaine. Thème de l'intervention, Napoléon historien, une lecture du précis des guerres de César.
Remercie à mon tour la mairie de Sartène, son premier adjoint, Olivier Battistigne et Antoine Baptiste Philippi. Alors le titre convenu pour cette intervention était Napoléon historien, une lecture du précis des guerres de César. Il y a, je le précise, un point d'interrogation dans ce titre, et je pourrais le reformuler en posant la question, Napoléon est-il un historien ? C'est évidemment une question rhétorique à laquelle il faut répondre que non. Napoléon n'est pas un historien, pas au sens où on l'entend aujourd'hui en tout cas, ou ce n'est en tout cas également pas son activité principale, comme vous le savez. Et on me dira pourtant que le précis des guerres de César, pour ceux qui ont eu l'occasion de le parcourir et que je vais aborder ce soir, ne peut être finalement qu'un ouvrage historique. Et il est vrai qu'une partie importante de ce dernier vise à établir les faits, ce qui est, après tout, le rôle premier de l'historien, qui est, avant tout, au sens étymologique, un enquêteur. Mais le précis n'est pas que cela. Il n'est pas que cela, car Napoléon y trouve l'occasion de nous parler de lui à travers César. Il a donc aussi la dimension, si ce n'est d'un testament politique, au moins d'une rétrospective sur la carrière de l'empereur, certes bien moins volumineuse et peut-être prestigieuse que d'autres ouvrages comme le Mémorial de Sainte-Hélène. Alors qu'est-ce que le précis ? C'est un petit ouvrage, un peu moins de 200 pages dans l'édition de 1836, qui est dicté au valet marchand par Napoléon à Sainte-Hélène et qui retrace l'activité militaire de César depuis le début de la guerre des Gaules en 58 avant notre ère jusqu'à son assassinat à Rome en 44. Pour narrer ces événements, l'empereur a le mérite de se fonder sur des sources, ce qui le rapproche d'une démarche historienne. Des sources qu'il semble plutôt bien connaître. Je donne un exemple. César écrit avec des guillemets lui-même les commentaires sur la guerre des Gaules et sur la guerre civile. Mais ce sont des membres de son entourage qui écrivent les commentaires sur les guerres d'Alexandrie, d'Afrique et d'Espagne. Napoléon le sait. Il dit notamment que la guerre d'Afrique est écrite, je le cite, par un homme aussi médiocre que l'histoire de la guerre des Gaules est écrite par un homme supérieur. Il utilise aussi très occasionnellement Plutarque et Suétone, mais il est toutefois incomplet puisque il semble ne jamais suivre des auteurs comme Appien ou Dion Cassius, qui sont deux auteurs romains d'expression grecque, certes tardifs, mais qui peuvent apporter des informations capitales sur certains points de l'activité politique et militaire de César. Alors, chaque chapitre du précis est divisé en deux parties. La première relève, comme je le disais, de l'établissement des faits, et c'est dans une seconde partie, à chaque fois, que Napoléon livre ses observations sur les faits en question. Dans ces observations, on a à peu près de tout. Napoléon peut y parler du nombre de combattants engagés dans une bataille, de la construction d'un camp par les légions, ou encore de la topographie. Le dernier chapitre, en revanche, qui est relatif à l'année 44 et donc à l'assassinat de César, lui fait figure d'exception. C'est-à-dire qu'il n'est pas divisé en deux parties, et Napoléon y développe, nous le verrons plus tard, de longues observations mêlées à l'établissement des faits. Alors, de ce que l'on trouve dans le précis, je voulais vous entretenir de trois aspects en particulier. Le premier, la comparaison entre la guerre ancienne et la guerre moderne. Nous en parlions tout à l'heure sur le forum de la Place Pourte. C'est le principal en termes de volume. Le second est la comparaison, plus ou moins explicite en fonction des circonstances, que Napoléon établit entre lui-même et César. La troisième, à mon sens, dépasse largement la comparaison et confine à une sorte de projection, hein, c'est-à-dire que Napoléon, lorsqu'il nous parle du suicide, de l'ascension de César, de son assassinat, eh bien, à travers César, nous parle aussi de lui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je dirais que si l'on y regarde d'assez près, très peu d'observations de Napoléon sont totalement innocentes. C'est-à-dire que très peu visent uniquement à une sorte d'érudition historienne. Et je tiens par ailleurs à rappeler que, y compris dans le précis, Napoléon ne se présente pas comme un admirateur inconditionnel de César, loin de là. Il le critique et le rabaisse, même plusieurs fois, pour se rehausser lui-même, et va par exemple jusqu'à dire que César introduit une odieuse nouveauté, c'est son mot, en célébrant un triomphe sur des concitoyens en 45. J'en profite justement pour citer ce que dit Napoléon du traitement réservé aux Vénètes, qui est un peuple des Gaules vaincu par César. Donc, ce que dit Napoléon du traitement réservé aux Vénètes par César, dont il a fait exécuter les membres de l'Assemblée. On ne peut que détester la conduite que tint César contre le Sénat de Vannes. Ils avaient donné lieu à César de leur faire la guerre, sans doute, mais non de violer le droit des gens à leur égard et d'abuser de la victoire d'une manière aussi atroce. Ces moyens ne remplissent jamais leur but. Ils exaspèrent et révoltent les nations. C'est une règle importante de bien traiter les prisonniers. Les Anglais ont violé cette règle de politique et de morale en mettant les prisonniers français sur des pontons, ce qui les a rendus odieux sur tout le continent. Alors, ici, c'est plutôt explicite, hein. César est rabaissé ou critiqué, non pas tant pour rehausser Napoléon, mais surtout pour rabaisser les Anglais. Vous voyez donc que c'est d'une brûlante actualité pour l'époque. Autre exemple, cette fois, à propos du pont que César avait fait dresser sur le Rhin pour passer en Germanie, là aussi dans le cadre de la guerre des Gaules. Napoléon dit que, je le cite encore, « c'est un ouvrage qui n'a rien d'extraordinaire ». Il l'est, hein. Et alors que jusque-là, les observations étaient relativement courtes, il va noircir 10 pages pour nous expliquer que le pont de César, alors, n'a rien d'exceptionnel, mais surtout pour vanter les ponts qu'il a lui-même fait construire, notamment sur le Danube, en 1809. Un autre thème qui me semble important dans le précis est la comparaison entre, je le disais, la guerre ancienne et moderne. Je ne serai pas exhaustif et je me contenterai de m'arrêter sur quelques exemples, puisque le temps tourne. Alors Napoléon insiste notamment sur la plus grande mortalité dans les batailles modernes que dans les batailles anciennes. Il dit aussi, peut-être pour se rehausser là aussi vis-à-vis de César, que les généraux modernes sont plus exposés et prennent plus de risques que les anciens. Mais surtout, il digresse sur la nature de la guerre. Napoléon identifie deux grandes différences entre l'Antiquité et son époque, toutes deux issues de l'utilisation de la poudre. La première, c'est qu'avant la poudre, les fortifications sont un avantage considérable. La seconde est l'ordre de bataille. Profond pour les anciens, mince pour les modernes, qui doivent pouvoir déployer la plus grande force de feu possible en même temps. Napoléon va jusqu'à pousser à l'Uchronie, hein, en allant imaginer une bataille entre l'armée d'Alexandre ou une armée romaine et une armée de ligne moderne, la dernière étant évidemment victorieuse. J'en profite pour noter une petite erreur de l'empereur qui affirme, je le cite, « que la légion et la phalange, dans quelque situation qu'elles fussent attaquées, soit de front, soit par le flanc droit ou par le flanc gauche, faisaient partout face sans aucun désavantage. » Or, ce qui est vrai pour la légion n'allait pas pour la phalange, et Olivier Battistini le sait, et bataille de cynocéphale et de pinard le démontrent. Alors, c'est pas la seule erreur de Napoléon, hein, mauvaise interprétation, et deux autres me semblent intéressantes. Premièrement, Napoléon dit, je le cite encore, « Les armées anciennes se battant à l'arme blanche, avaient besoin d'être composées d'hommes plus exercés. C'était autant de combats singuliers. Les armées anciennes approchaient de la chevalerie. Un chevalier armé de pied en cap affrontait un bataillon. » Bon, c'est assez inexact, hein, et on sait que les armées victorieuses de l'Antiquité l'étaient de par leur formation, que la guerre d'ailleurs était une affaire de formation, même si ces armées pouvaient être composées d'excellents escrimeurs par ailleurs. Secondement, Napoléon reprend l'idée plutôt fausse selon laquelle le combat naval dans l'Antiquité, avant l'apparition des armes à feu, est similaire à un combat d'infanterie. C'est un lieu commun, hein, diffusé dès l'Antiquité, notamment par Polybe, pour ceux qui regardent les Romains. Polybe, qui est un bon Péloponnésien, n'y connaissait pas grand-chose en combat naval. Bon, je sais que répondre à un cliché par un autre cliché est un procédé rhétorique un peu contestable, mais passons. En revanche, et vous constaterez avec moi qu'encore une fois, les mésaventures stratégiques de l'auteur ne sont jamais bien loin, Napoléon en profite pour dire, je cite, « Ce n'est pas de la marine des anciens qu'il eût fallu dire le trident de Neptune et le sceptre du monde, maxime qui est vrai aujourd'hui. » Napoléon et son empire en savaient quelque chose. Alors, au-delà de ça, dans le précis, des analyses bien intéressantes ou révélatrices. Hein. Je pense notamment au fait que Napoléon prenne le contre-pied d'une grande partie de l'historiographie et critique le choix de Caton le Jeune, qui s'est suicidé après avoir été vaincu par César. Il dit, à propos du suicide de Caton, que ses actions désespérées sont inspirées par un faux courage et de fausses idées de grandeur. La mort de Caton fut la faiblesse d'une grande âme, l'erreur d'un stoïcien, une tache dans sa vie. Il s'appuie sur l'exemple de Marius, qui n'avait pas perdu espoir après un premier revers et dont la constance avait été récompensée, puisqu'il finit par rentrer à Rome et obtenir un septième consulat. Plus loin, il va revenir encore sur le suicide avec le ragot qui prête à César l'intention de chercher la mort à la bataille de Munda en Espagne. Il conclut « Veut-on, doit-on se donner la mort ?»« Oui, dit-on, lorsque l'on est sans espérance. Mais qui, quand, comment peut-on être sans espérance sur ce théâtre mobile où la mort naturelle ou forcée d'un seul homme change sur le champ l'état et la face des affaires ?» On ne peut s'empêcher, là, de penser que lorsqu'il dictait ces lignes au valet marchand, l'empereur déchu nourrissait encore quelques secrets espoirs. Le 16e et dernier chapitre du précis, qui relate, lui, l'année de la mort de César, est, je vous le disais, très particulier. Hein, exit la structure habituelle des chapitres divisés en deux, avec l'établissement des faits d'une part et les observations de Napoléon Bonaparte de l'autre. Il livre ses observations et ses commentaires au fil de l'eau, et c'est là qu'ils sont peut-être le plus politiques et que l'on voit poindre le plus régulièrement Napoléon derrière César. Alors, l'idéal pour examiner ce jeu de projection eût été de faire une lecture in extenso de ce chapitre, ce dont je m'abstiendrai, évidemment, et je n'en citerai qu'un court passage. Je cite donc « César a toujours affecté, jusqu'au dernier moment de sa vie, les formes populaires. Il ne faisait rien que par un décret du Sénat. Les magistratures étaient nommées par le peuple, et s'il s'arrogea la réalité du pouvoir, il avait laissé subsister toutes les formes républicaines. » Ce que Napoléon dit là de César, de son affection pour les formes populaires, il le dit aussi, peut-être, de lui-même, avec sa volonté, certes, de s'arroger la réalité du pouvoir, c'est assez clair, mais en respectant toujours, dans une certaine mesure, les formes républicaines, ou en tout cas un certain état de droit. Avant de conclure, je souhaitais m'excuser, puisque le thème de ces rencontres et tel héritage, et vous pourriez penser, à entendre mon intervention jusque-là, qui n'a pas abordé cette question, que les organisateurs ont fait de la publicité mensongère. Il n'en est rien, et c'est de ma seule responsabilité si vous êtes ou vous sentez lésé. Mais vous allez voir qu'on peut toujours retomber sur nos pattes, si j'ose dire, et que l'héritage n'est jamais bien loin. Déjà, au regard de l'héritage césarien qui est capté par Napoléon. Mais je ne reviendrai pas sur cette question, puisque j'en ai déjà parlé l'an dernier, que cela a été publié ici même, et que le professeur Boudon y a depuis consacré une monographie. On en arrive à l'héritage, car la passion, si j'ose dire, ou au moins l'attrait de Napoléon Bonaparte pour César, cet attrait va être transmis à son neveu et successeur à l'Empire, Napoléon III, et nous allons en quelque sorte en hériter aussi indirectement. Napoléon III va poursuivre le travail de Napoléon Bonaparte en dirigeant une histoire de Jules César qui, cette fois-ci, se situe dans une démarche, pourrait-on dire, à 100% historienne. Alors, certes, Napoléon III est un homme de son temps. Il n'est pas dénué d'arrière-pensée lorsqu'il parle du césarisme, des Germains, ou lorsqu'il dresse un parallèle entre son oncle et César dans sa préface. Certes aussi, l'histoire romaine et ses sources ont depuis fait de grands progrès, que ce soit en termes de documentation numismatique, épigraphique ou archéologique. Mais c'est un travail, cette histoire de Jules César, c'est un travail d'une très bonne qualité, qui a longtemps fait autorité et dont de très grands romanistes, y compris récemment, ont reconnu la qualité, je pense notamment au début des années 2000, au regretté Claude Nicolet. Le deuxième aspect de cet héritage, c'est l'archéologie. Et je rappellerai notamment que Napoléon est le père de l'archéologie, Napoléon III, pardon, est le père de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de la tentative de documenter la fabrication, la fonction et les usages d'un objet. Il va faire construire des engins de siège, des fortifications, des armes et même une trirème dans cette démarche-là. Napoléon III lance également, vous le savez, de grandes campagnes de fouilles en Italie, en Afrique du Nord, en France, en particulier sur les trois célèbres oppidas que sont Alésia, Bibracte et Gercovie. Vous voyez donc, mesdames et messieurs, que l'héritage n'était finalement pas bien loin de mon propos. Je m'excuse si j'ai été un peu long et je vous remercie.